Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'écrivain et poétesse Elsa Morante est morte en 1985 à l'âge de 73 ans. Exactement un an auparavant, Francesca Piolo, en compagnie des écrivains Jean-Noël Schifano et Hector Bianchiotti, lui avait consacré une émission des Nuits magnétiques dans laquelle on entend le beau français de la belle italienne. Nous sommes donc en 1984 et Elsa Morante, alors très pauvre et très malade, apprendra en direct qu'elle vient juste de recevoir le prix Médicis étranger parmi les nombreux prix qui lui furent décernés dans sa vie. Épouse d'Alberto Moravia et collaboratrice de Pasolini pour l'Évangile selon saint Matthieu, Elsa Morante, qui fut publiée dès l'âge de 13 ans, est une des plus importantes romancières et essayistes européenne.
Les secrets de fauve, on ne les dit pas aux femmes. Ferme les yeux et chante-moi des flatteries avec tes soupirs ronronnants. Mon abeille, file pour moi tes miels. Que se replie le souvenir ombreux de toute question. Moi, je veux me reposer. La joie de t'avoir pour amie suffit à mon cœur. Et de mes fables et de mes deuils, par tes baisers, par tes douces plaintes, tu me consoles, ô mon chat.
Allô ? Elsa Morante, ici Jean-Noël Schifano, vous m'entendez ?
Oui, oui.
Vous m'entendez ? Je vous appelle de la Radio France, de Radio France à Paris. Et comment allez-vous ?
Je parle.
Comment allez-vous ? Dites-moi comment vous allez. Vous allez bien ? Ah mais si, vous allez bien, je vous ai vu il y a très peu de temps, vous alliez bien.
On va parler tout de suite ou non ?
Oui, oui, on parle tout de suite. Oui, oui, oui. Alors écoutez, Elsa.
Vous parlez en ce moment au français ?
Oui, vous parlez au français en ce moment.
Alors, je dis...
Attendez, attendez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Une excellente nouvelle. Vous venez d'avoir le prix Médicis étranger pour votre livre à Araceli.
Oh, merci. Alors, je remercie de tout mon cœur, mes amis français, pour l'honneur et le plaisir glorieux qu'ils me donnent. Je regrette d'être empêché de venir là avec vous, mes chers amis. Je suis très ému et vous embrasse tous. Merci beaucoup.
Elsa Morante, on vous aime tous, beaucoup, beaucoup. Vous êtes la reine des lettres italiennes, on vous aime, on vous adore.
Oh, merci, mon cher, merci. J'espère de vous revoir bientôt.
Ce soir, aux Nuits Magnétiques, nous avons rendez-vous avec Elsa Morante. Elsa Morante, écrivain, qui aurait voulu être chante-fable, cantastorie, et à laquelle les Italiens, ses compatriotes, ont accordé en 1948 le prix Viareggio pour son roman Mensonges et sortilèges, en 1958 le prix Strega, l'équivalent du Goncourt, pour l'île d'Arturo, et que les Français viennent de consacrer ces jours-ci avec le prix Médicis étranger. Mais ce n'est pas ce palmarès glorieux et mérité qui m'a porté jusqu'à Elsa Morante. J'avais lu cet été, j'avais été bouleversée par la lecture de son roman Au nom de femme, Araceli. Celui-là même qui est couronné par le Médicis. C'est un portrait de femme enfant, de femme mère, de femme amoureuse, d'entrailles de femme, vu par les yeux de son fils, Manuel, qui le jour de ses 43 ans, le 4 novembre 1975, part à sa recherche. Araceli est morte et le fils part à la recherche de ce fantôme dans l'Espagne de Franco à l'agonie, 4 novembre 1975. Double quête à travers l'espace et le temps de cette Andalouse sauvage enlevée par un commandant piémontais. Araceli, au front recouvert de bouclettes jusqu'aux sourcils, grappe noire, vers lesquels se lèvent les yeux amoureux du fils, buvant le lait à la saveur méliflue. C'est cette histoire d'un amour fusionnel impossible qui est racontée là. La voix de la mer, les berceuses espagnoles, matinées d'italiens, langage d'amour entre mère et fils. Fils aimé, fils repoussé, fils adoré, fils haï, témoin attentif des amours de la mère, de sa boulimie d'homme et de sa longue déchéance. Et à cause de cela, lui, Manuel, toujours en quête désespérée d'amour. Depuis que j'ai perdu mon premier amour à Racelli, plus jamais on ne m'a donné un baiser d'amour. Jamais plus je ne serai un objet d'amour pour personne. Destin lié, croisé, affronté, que ceux du fils et de la mère, la sauvageonne, avec sa peur des ascenseurs, montée à croupetons sur la lunette des water, à Racelli, pour laquelle la terre est plate, ou encore, brûlante d'amour, extasiée devant le trousseau de sa fille. À Racelli, nymphomane, qui fait l'amour, la danse angélique dans les ascenseurs. À Racelli, qui meurt, dueur entre sa nature indomptable et la nécessité de la civilisation. Sous le regard du fils, toujours, putain et sainte. À Racelli, hôtel du ciel, dans ce nom latin donné en Andalousie aux filles, il faut lire qu'il y a toujours, dans l'œuvre d'Elsa Morante, un enfant sacrifié passionnellement sur l'autel des mères. Donc, bouleversée par la lecture de ce roman, j'ai voulu rencontrer Elsa Morante. Mais elle n'accorde peu ou pas d'interview, comment faire? J'avais trois points de repère, les hommes qu'elle a aimés, les enfants dont elle a parlé, et les chats qui furent la passion de sa vie. Les hommes qu'elle a aimés, j'ai préféré la rencontrer, elle. Les enfants étaient, comme tous les enfants du monde, occupés à jouer. Et les chats, pas au rendez-vous, puisqu'Elsa Morante est à la clinique. Les chats sont tous sur la Piazza Argentina, à Rome, où ils se sont donné rendez-vous dans les fouilles. Le fil d'Ariane, ce fut Jean-Noël Schifano, auteur des chroniques napolitaines et traducteur d'Elsa Morante. Il lui rendait visite, je l'ai suivi. Témoin attentif de cette rencontre affectueuse, j'ai pu rapporter de Rome les propos échangés entre son traducteur, Jean-Noël Schifano, dont c'est le troisième prix Médicis étranger en tant que traducteur, et Elsa Morante, à la voix et au rire de jeune fille. Quatre jours, depuis le vendredi 31 octobre 1975 jusqu'au 4 novembre, le mardi. C'est ainsi que ce matin, je me suis mise en route pour mon voyage. La tentation du voyage m'avait récemment envahie avec la voix même de ma mère.
Nous sommes partis à la recherche d'Elsa Morante et comme le personnage d'Araceli part à la recherche de sa mère. Nous sommes partis fin octobre, début novembre, 1984, comme le personnage Emanuele d'Araceli part, lui, en 1975, fin octobre, début novembre.
Rome, 31 octobre 1984. C'est l'été encore à Rome. Il fait très chaud à l'aéroport. Le bus, la gare, le fleuriste, les fleurs pour Elsa Morante, le taxi, les fontaines au passage, la Trinità dei Monti et tout là-bas la clinique. Ambiance feutrée, tapis, gros fauteuil, petite nonne en blanc et marron. La signora Morante, deuxième étage.
Et en arrière, encore plus en arrière dans le temps. Le 4 novembre, il y a 43 ans, 3 heures de l'après-midi. C'est le jour et l'heure de ma naissance. Ma première séparation d'avec elle. Quand des mains étrangères m'arrachent de son vagin pour m'exposer à leur offense. Et on a entendu alors mon premier pleur. Ce pleur typique d'agnelé qui, d'après les docteurs, aurait une simple explication physiologique, pour moi si stupide. Je sais en effet que j'ai vraiment pleuré, d'un deuil désespéré. Je ne voulais pas me séparer d'elle. Je dois l'avoir déjà su, qu'après cette première séparation sanglante, en suivrait une autre, et une autre, jusqu'à la dernière, la plus sanglante de toutes. Vivre signifie l'expérience de la séparation. Et moi, j'ai dû l'avoir appris, dès ce 4 novembre, avec le premier geste de mes mains, qui fut de tâtonner à sa recherche. Depuis lors, en réalité, je n'ai jamais cessé de la chercher. Et dès cet instant, mon choix était celui-ci, rentrer en elle, me pelotonner en elle, dans mon unique tanière, désormais perdue qui sait où, au pied de quel précipice. Este niño chiquito no tiene cuna, ce tout petit enfant est sans berceau.
Il y a un an et demi, après lorsqu'El Zamorante a mis le point final à Araceli, elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée pour un tas de raisons, et d'abord par solitude, parce qu'elle était malheureuse, parce que elle a été au moment de La Storia, son autre grand roman, qui a été un succès en France et qui l'a fait un peu connaître. Elle a été un peu persécutée par, si vous voulez, l'extrême gauche italienne, et la gauche, enfin marxiste, disons obtuse, dont un des personnages est Azor Rosa. Et lorsque Elsa Morante me racontait que lorsque le soir elle écoutait son enregistreur téléphonique, sur la bande il n'y avait que des insultes à la romancière rétrograde, à la romancière qui n'était pas engagée politiquement dans son temps. Donc Elsa Morante a subi une espèce de persécution extérieure. Mais si vous voulez, ça peut être la goutte qui a fait déborder le vase. Ce qui a entraîné, je crois, son suicide, ce qu'elle appelle son auto-euthanasie, c'est qu'elle s'est sentie tout à coup vieillir énormément. Elle a mis 8 ans pour écrire Araceli. Et ces 8 ans ont été 8 ans de solitude extrême. Elle n'a pas bougé de chez elle. Et tout d'un coup, cette femme qui, à 60 ans, paraissait 35, est devenue vieille. Et ça, c'était naturellement, je crois, une des grandes raisons de son désespoir. C'est-à-dire ce temps qui passe, ce temps qui écrase, et la mort qui approche et que par vertige, sans doute, on essaye de devancer. Elsa Morante est un personnage inconnu, en tant que femme. Et,
parce qu'elle n'accorde jamais d'interview.
Oui, elle n'accorde jamais d'interview. Elle est toujours absente au monde. Elle est présente à son monde, à elle. Et elle est présente au monde aussi extérieur, mais elle dit elle-même que tout est dans ses livres. Tout est dans son œuvre et qu'elle n'a rien à dire.
Et c'est la raison pour laquelle vous l'appelez la divine barbare ?
Non. Je l'appelle la divine barbare parce que elle appelle, elle, les enfants, les divins barbares. Et Elsa Morante aurait voulu être un garçon, un petit garçon, et rester toujours un petit garçon, ne pas mûrir, ne pas devenir un homme. D'où son livre préféré, qui n'est pas traduit en français encore, et qui s'appelle Il mondo salvato dai ragazzini, le monde sauvé par les gamins. Elle voulait être un garçon et rester un garçon parce que, contrairement à ce que, par exemple, Pavese disait, ripeness is all, la maturité est tout, pour Elsa Morante, la maturité, c'est la contagion du monde adulte et la pourriture de l'innocence première. Elle est de père sicilien, je suis de père sicilien, et j'ai toujours voulu traduire Elsa Morante. J'ai toujours souhaité traduire un livre d'Elsa Morante, et je suis naturellement très très heureux pour elle, d'abord parce que je l'ai porté un peu comme une femme enceinte. J'ai porté son livre, j'ai porté elle qui est clouée dans sa clinique, nous y reviendrons, et j'étais vraiment heureux pour elle. Nous sommes arrivés à la Villa Margherita. Et j'ai la Villa Margherita, c'est la clinique où, depuis un an et demi, Elsa Morante est suivie jour et nuit, enfin, sur le plan médical. C'est-à-dire qu'elle va très bien, elle est merveilleuse de vivacité d'esprit, d'humour, de rire. Elle parle de sa mort future en souriant et en riant.
Elle
penche la tête. C'est dans ces moments de tristesse. Mais sa tristesse est passagère. C'est un peu comme... si vous voulez, Elsa Morante est aussi un personnage baroque. C'est-à-dire qu'elle mêle dans sa vie et dans ses œuvres, je crois, beaucoup de joie, une joie extrême et une tristesse extrême. Et elle-même dit que le jour de sa mort, elle veut que les gens soient gais.
Elle veut qu'on joue Mozart pour sa mort.
Les trois génies de la flûte enchantée. Et puis Bob Dylan aussi. Et puis,
Bob Dylan, c'est le souvenir de l'Amérique.
C'est le souvenir de l'Amérique et d'un de ses grands amours, d'un des garçons qu'elle a beaucoup aimé et qui s'appelle Bill Morrow, un peintre, et qui est mort... Il s'est suicidé il y a une vingtaine d'années. Donc Elsa Morante est un personnage de passion, aussi bien dans ses livres que dans sa vie. Ce qu'il faut dire, c'est que les livres d'Elsa Morante, et contrairement à ce que j'ai lu dans la presse et dans la bouche de son toujours mari, bien qu'il soit séparé depuis presque 30 ans, c'est-à-dire Alberto Moravia, ces personnages sont extrêmement autobiographiques. Moravia dit que c'est le contraire, mais ce n'est pas vrai du tout. Ces personnages sont autobiographiques, absolument. Elle nous a dit que, en écrivant L'île d'Arthur, par exemple, elle qui adore les chats, et comme son personnage Arturo avait un chien, elle s'est mise, en écrivant le livre, à aimer les chiens. Elle me dit que Arturo, c'est moi, c'est une projection, etc. Elle est le coup de force d'Elsa Morante dans, par exemple, L'île d'Arthur, mais dans tous ses personnages, que ce soit des garçons ou des femmes. Eh bien, ce coup de force, c'est qu'elle n'est pas moins grand que la projection, par exemple, de Stendhal dans La Miel. C'est-à-dire, Elsa Morante ne peut se comparer qu'à des très grands écrivains. Tous ses romans sont des sommets. Si vous voulez, il y a une trilogie qu'on ne peut pas déjà contourner sur le plan littéraire, sur le plan création, sur le plan témoignage de l'existence, de notre existence actuelle, de cette fin de siècle, sur le plan de la création des mythes. C'est Mensonges et sortilèges, c'est L'île d'Arthur et Araceli.
La maternité, c'est un thème important pour elle. Elle en parle, elle dit d'ailleurs, dans l'entretien qu'elle a eu avec nous, elle dit qu'elle aime les mères, les vraies mères.
Oui, les vraies mères, c'est-à-dire les mères, c'est tout ce qui n'est pas intellectualisé dans la fonction maternelle, tout ce qui est... au niveau de l'animal, la mère analphabète, la mère, si vous voulez, la comparaison que je donne volontiers, c'est que Elsa Morante aime les chats, les chattes, et son rapport avec ces personnages, c'est un rapport de chatte à ses petits. Elle écrit comme une chatte sent et lèche ses petits. Elle a un grand instinct d'écrivain. Et les mères qu'elle aime, ce sont des mères d'instinct. Ce ne sont pas des mères qui ont été, si vous voulez, traviatées par la civilisation, par tout ce qui fait que les choses deviennent artificielles ou dictées par des modes, mass media, etc.
Le bonheur pour elle, c'est que dans cette clinique, effectivement, où elle est, elle peut voir les enfants.
Oui. C'est assez merveilleux, donc, dans son malheur, parce que, malgré tout, vivre depuis un an et demi dans une clinique où elle s'est pratiquement ruinée, Seulement, elle va très bien. Vous donnez des nouvelles de sa santé, elle va très bien. Simplement, ses membres inférieurs ne bougent pas encore. Enfin, elle fait des exercices. D'ailleurs, son kinésithérapeute est un napolitain. Et son lien au sud est très fort, là.
On la descend le matin près de la fenêtre,
oui,
près de la baie vitrée.
C'est ça. Elle lit, assise sur son fauteuil roulant.
Elle regarde les chats qui passent.
Il y en a un. Et puis, elle a beau l'appeler. Enfin, elle ne s'arrête pas. Parce qu'elle ne connaît pas son nom.
Et puis, il y a les enfants.
Ce qui est merveilleux, c'est qu'au dernier étage de cette clinique, il y a une maternité. Et Elsa Morant monte régulièrement voir ses enfants. Elle les trouve très beaux. Un des drames de sa vie, ça a été de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Lorsque je lui faisais cette interview, un petit Libyen d'une huitaine d'années est arrivé, couru vers elle, une sorte de Gualione et napolitain, de gamin des rues, couru vers elle et il lui a dit « Aujourd'hui, je te dessine un chat ». Alors elle était toute contente, puisque c'est sans doute ce qu'elle lui a demandé depuis longtemps. Et le gamin s'en va. Elle m'explique que ce petit Libyen a une très grave maladie et qu'il est traité au cobalt à la tête. Et qu'on a dû lui couper ses belles boucles, mais que ses belles boucles repoussent. Le petit Libyen se représente avec un revolver à la main, le pointe sur la tempe d'Elsa Morant et Elsa Morant reste aussi douce que quand le petit Libyen lui a proposé de dessiner un chat et pleine d'admiration pour ce garçon qui est entre la vie et la mort mais qui joue même à la tuer.
Il la vise à la tête,
oui, à la tête. Araceli meurt par la tête et le ventre, et Elsa Morant, et après son suicide, enfin, a dû être opérée de la tête aussi. Il y a des prémonitions dans Araceli.
C'est un livre doublement prophétique à ce titre.
Oui, bien sûr. Par exemple, El Almendral, le village qui est décrit, elle l'avait décrit exactement comme il est en Espagne, avant de le visiter. Ce dont meurt Araceli, c'est un peu ce dont aurait pu mourir Elsa Morant.
Je dois dire avant tout que mon chat Caruso s'appelait comme ça parce qu'en sicilien, et je suis de père sicilien, Caruso signifie enfant. Et il était très très petit quand je l'ai acheté. Alors je lui ai mis, même pas pour Caruso, le fameux. Comment s'appelle l'homme?
Le chanteur napolitain.
Pas pour Caruso, le chanteur napolitain. Parce qu'il ne chantait pas, il avait une voix très forte. Wow, wow. Et il m'a complètement détruit la maison. Parce que j'avais lui donné une petite femme siamoise et ils ont fait 150 jardins.
Non.
Oui, 150. Je les ai donné tout. Parce qu'il a vécu 19 ans. Il est mort quelques jours avant ma mort. Je voulais mourir, pas pour lui, je n'exagère pas, mais parce que j'étais très malheureuse.
Mais c'est désespoir.
J'étais trop malade. J'étais désespérée. Alors, qu'est-ce que je dois faire?
Mais c'est à cause de votre jambe, de l'accident aussi?
C'est aussi la jambe et aussi des autres. Je souffrais beaucoup, je ne pouvais pas vivre. Et j'ai très peur maintenant de recommencer parce que je suis...
Non, il y a un livre à écrire. Il y a un livre. Je veux traduire un autre
très...
livre. Hein.
J'écris très rarement.
Oui, mais ça ne fait rien. Ça fait rien. Il y en a un autre.
Alors, je devrais vivre, hélas, 100 ans.
Non. Dans 8 ans, il y en aura un autre.
Ah, 8 ans.
Mais
8 ans sont longs.
Mais non, mais vous faire un livre.
Ils sont très longs, 8 ans.
Moi, je vais en traduire un autre.
Oh, ah, j'espère, oui. Parce ah, que oui. Je vous donne, en ce moment, je ne peux pas vous le donner parce que je ne l'ai pas ici. Parce que l'éditeur, alors, était une édition longanaise qui n'existe pas maintenant. Et ce sont des poèmes qui s'appellent Alibi. Et peut-être que vous, j'étais, ero giovane alors, oui. Peut-être que vous aimez les traduire, oui, parce qu'il y a des choses jolies. C'est un oui. petit livre,
oui, j'aimerais Alibi. Bien. J'aimerais bien.
Et je,
vous pouvez peut-être, le demander à qui.
Je l'ai à la maison, peut-être, quelques... Mais je ne peux pas aller à ma maison maintenant. Et alors, pour le moment, non, parce que ce livre-là n'est pas connu du tout.
Et pas
c'est
du tout,
pas,
du tout.
C'est pas comme celui-ci. Celui-ci, c'est très...
Ah, il est très connu, moi, c'est, Mondo si. Salvatore Ragazzini.
Si, pas en France.
Non, pas en France, il n'est pas traduit.
En Italie, il est très connu parmi les jeunes, les giovani.
Moi, le premier livre que vous aviez écrit, c'est Il ladro di lumi, le voleur de lampes.
Ah, c'est un conte.
Oui, mmh. Oui.
Comment est-ce que vous aimez
un oui, conte? Oui, c'est beau, oui. C'est un conte, oui, oui. Une fable.
Il ladro di lumi. Non, c'est pas une fable, c'est vrai. Oui. Ma, à Modena.
Ah bon?
Il y avait un juif qui était très, très pauvre, très pauvre. Alors, il allait voler l'huile des lampes de mort. Et ma grand-mère le voyait de la fenêtre et m'a raconté... Non, ma grand-mère, je ne l'ai jamais connue, mais cette chose est vraie. Alors, j'écris pour la première fois, parce qu'avant, j'écrivais des, seulement pour les petits, des fables... ils me l'ont aussi payé.
Mais il y a une petite fable, vous avez écrit très jeune, je crois, non? À 17 ans, vous avez quitté votre famille.
Oui, c'est l'Adro des Loups, mais j'avais peut-être 17 ans.
Vous avez vécu comment?
Affreusement.
Affreusement.
J'ai vécu, c'est terrible, ma vie, c'était très difficile.
Mais vous avez appris, c'est vrai que vous avez appris à lire, à écrire toute seule ou
ah
vous
oui,
avez
toute
été...
seule. Ma mère était comment ça s'appelle, maestra.
Maîtresse d'école.
D'école pour petits. Oui. Mais elle ne pouvait pas. J'ai commencé à écrire à 4 ans.
À 4 ans?
Oui. Mais la première poème, je l'ai fait quand je ne savais pas écrire.
Et c'est à, deux très à deux ans et demi, quand vous
oui,
étiez amoureuse
oui.
du garçon de
Ah oui, de mais ce n'est pas un poème d'amour, c'est un poème de tragédie. Parce ah bon? Qu'il dit, un povero galletto che stava alla finestra, gli casca giù la testa e va, e va, e va.
Bella.
Un gallo piccolino che stava alla finestra, gli casca giù la testa e non vede più e più. Et peut-être c'était une prophétie.
C'est beau, oui, oui.
C'est... Non, ah, c'est bah... pas beau.
Non. Dis... Dans le sens de prophétie aussi, je veux dire.
De prophétie, yeah, est... oui.
C'est vous le petit coq.
Je ne sais pas si j'étais le petit coq, mais mon premier poème, c'était là.
Ouais. Ma mère était andalouse. Le hasard fit que de naissance, ses parents portaient l'un et l'autre le même nom de famille, Muñoz. Si bien que selon l'usage espagnol, elle portait le double nom, Muñoz-Muñoz. De son nom de baptême, elle s'appelait Arachel. Mon teint maîtré, c'est à elle que je ressemblais, tandis que la couleur de mes yeux venait de mon père, italien du Piémont. De ce temps où j'étais beau, me revient à l'oreille une chanson douce que l'on chantait seulement les soirs de pleine lune et dont je ne me lassais jamais. Et elle, pleine de joie, me la répétait en me faisant sauter vers la lune comme pour m'exhiber devant ma sœur jumelle, là-haut dans le ciel. Luna lunera, cascabalera, los ojos azules la cara morena. Lune ronde, lune, hurluberlune, les yeux tout bleus, la frimousse brune.
Et au Testaccio, vous viviez comment?
Je suis née à un hôpital, parce que ma famille était pauvre. Mais mon enfance, jusqu'à 9 ans, 10 ans, était au Testaccio, oui. Alors, dans la storia, j'ai mis le testaccio aussi. J'ai parlé de San Lorenzo, qui est un quartier...
À côté du Verano?
Oui, à côté du Verano. Et le commandante de...
C'est ça. Mais le cimetière de Rome, le Verano, apparaît à d'autres endroits dans la storia aussi, je crois.
Dans la storia, je me souviens bien pas.
Si le personnage au début de la storia habite à San Lorenzo.
Oui, hein, oui. La maison a été détruite par le fameux bombardement de Rome.
Oui, c'est ça.
Et oui, alors San Lorenzo pour moi, je ne sais pas pourquoi. Et après, il y a eu le départ de juifs sur le train déporté, qui m'avait beaucoup. C'était une chose vraiment atroce. Alors, vous savez.
Le mois et le jour de votre naissance, parce que je vous le demande non pas par indiscrétion, c'est parce que vous faites toujours, vous êtes très attentif aux signes zodiacales de vos personnages. Par exemple, dans Araceli, il y a un personnage de la Vierge, un personnage du Capricorne, un personnage.
Et vous êtes, oui, et, mon étoile était le lion.
Ah, le lion.
Qui n'est pas très sympathique, parce que tous les dictateurs sont du lion, mais moi, je ne suis pas un dictateur. Je suis né sous le lion, 18 agosto.
18 août.
De 1912. Voilà. J'ai vu sur un de ces journaux que vous m'avez porté que je suis né en 1918. Non, c'est parce que quand j'étais jeune, je voulais être plus jeune. Parce que j'ai tombé amoureuse. Alors, j'étais assez vieille, mais tout le monde croyait que j'étais jeune. Alors je ne voulais pas confesser mon âge. Et sur une fameuse, une grande encyclopédie anglaise, est sorti que je suis né, je ne me souviens pas si c'est 18 ou 16.
Oui.
Mais je suis né 12, 1912. Je suis très vieille.
Non.
Maintenant, la mode dit que les septuagénaires ne sont pas vieux, mais je pense qu'ils sont vieux dans Stendhal. Et dans tout.
Ah ben oui, mais la femme de 30 ans de Balzac a 30 ans au 19e
siècle. Oui,
vieux,
c'est vrai.
Maintenant, il faut attendre 100 ans maintenant.
Si, si. Maintenant, à 30 ans, on est une jeune fille.
Voilà.
La belle Brigitte Bardot a 50 ans. Elle est toujours belle.
Oui.
Elle était tellement belle.
Elle était belle.
Mais elle est belle encore.
La Claudia Cardinal est belle.
Elle est trop belle.
Elle est trop belle.
Brigitte Bardot est plus enfant. Un des malheurs de ma vie maintenant est que je ne peux pas avoir près de moi un animal.
Un chat.
Surtout un chat, mais les chiens aussi, je les aime beaucoup. Seulement que j'aime les chiens très gros.
Ah oui, mais là, c'est pas possible.
Et alors, les chiens très petits, ouais. Je les aime beaucoup, mais pas pour moi. Pour moi, j'aime... comment s'appelle
les chiens des Pyrénées, les Saint-Bernard, les
Les chiens, non, c'est un nom italien. J'aime... je ne me souviens pas le nom en ce moment. C'est blanc, grand, et très, très fidèle, et très mauvais, s'il doit...
Ah bon, défendre.
C'est le chien que j'ai mis sur la storia. Un pastore maremma.
Bella, c'est Bella.
Bella, sì.
Hein, dans la storia.
Sì, nella storia il y a un petit chien.
C'est un pastore des Pyrénées, non? Un chien berger des...
Chien berger, non, italien. Maremma, pastore maremma, je pense. Pastore.
Ah, de la maremme.
Sì.
La maremme.
Blanc.
C'est ça.
Et très grand.
Eh oui.
Et très, très, très... Je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi les petits chiens. Mais...
Ils sont plus nerveux, les petits, plus agités.
Bien, je les aime beaucoup. Je l'ai mis aussi dans la story.
Oui.
Il y a l'édition japonaise de la story, sur la couverture.
Très... Il y a un chien, c'est la
couverture. Il y a un petit chien, oui.
Je me suis réveillée dans cette position, la même que j'avais prise en m'endormant. Au vrai, mon sommeil n'a pas duré plus de quelques minutes ou secondes, peut-être. Ma montre à mon poignet indique 11h15. Et pourtant, je me retrouve avec un esprit très lucide, prêt à brûler un temps infini de veille nocturne. Je ressens encore dans ma poitrine un affaiblissement des muscles et un essoufflement, comme après une violence subie. Et puis, les vilaines marionnettes de mon rêve hantent encore la pauvre, étroite chambre, si bien que, pareil à un petit enfant, j'ai peur d'éteindre la lumière. Duermete, niño mio, que viene el coco. À cette heure-là, il y a 40 ans, depuis 2 heures déjà, tu dormais avec ton niño, ainsi que chaque soir, contente, après ses bisous de la bonne nuit. Mais qu'as-tu fait de ce Nino Araceli? En le livrant à la bonne nuit, tu le gardais, Nigaud, pour les nuits du coco. Et donnons-nous donc ici ce soir la mauvaise nuit. Mauvaise nuit à toi, Araceli, qui a reçu la semence porteuse de moi comme une grâce et qui l'a couvée dans la douce chaleur de ton ventre, tel un trésor. Et puis, la neuvième lune, tu t'es déchargé de moi avec joie pour me remettre nu à tes sicaires. De la conception à l'accouchement, de l'allaitement à la petite école des premiers pas et de l'alphabet, tu n'as rien fait d'autre que tendre et croiser sur moi, tendre et croiser les fils de ta machination criminelle. Il valait mieux que tu avortes ou que tu m'étouffes de tes mains à ma naissance, plutôt que de me nourrir et de m'élever avec ton amour félon, comme une bête qu'on gave pour l'abattoir. En réalité, tandis que tu me souriais de ton regard enamouré, tu faisais un clin d'œil à tes fauteurs. Et en attendant, le filtre ensorcelé que tu gâchais jour et nuit au creuset de ma chair, c'était ça vraiment, ton faux excessif amour, auquel tu m'as accoutumé ainsi qu'un vice incurable.
Et l'Espagne, vous m'aviez dit que vous y aviez été deux fois en Espagne.
Oui, la première fois, c'était avec un ami à moi, américain, pas le garçon dont on parle dans cet article. Un ami à lui, il était déjà mort quand je suis andée en Espagne. Et il s'appelle, mais je ne le vois pas maintenant. Voir vuol dire vedere.
Oui.
Et il s'appelle Allen. Et la deuxième fois, qui était... pas beaucoup de temps, il n'y a pas beaucoup de temps, un grand temps. Je suis allée avec Carlo Cecchi, qui, je vous répète, est un grand metteur en scène. Je ne dis pas parce qu'il est mon ami, non.
Et il vit à Florence.
Il a un théâtre à Florence, mais ce théâtre très beau, un théâtre du 18e siècle, très beau. Mais ce théâtre s'est incendiato. Et alors il doit payer maintenant toutes
les dettes.
Et alors, pour lui, la vie. Et en France, on l'a invité. Mais c'est difficile pour un homme de théâtre italien travailler à l'étranger. Alors, il lui demande en France des petites choses de napolitain. Et il est en ce moment, il est en train de faire, il est metteur en scène et acteur.
Acteur aussi.
Très, très bon. Très, très. Mais vraiment. Et je l'ai connu qu'il était un garçon très jeune. Et maintenant, il est moyen.
Il a grandi.
Non, pas moyen âge.
Moyen.
Mais moyen. Comment ça s'appelle? Il a 40. C'est mieux pas le dire.
Parce non, il ne faut pas le dire. Il est du moyen âge.
Oui.
Bon, l'Espagne, et puis je vais savoir les choses sur
l'Espagne, je décris dans la Rachel exactement un voyage que j'ai. Parce que ce village qui s'appelle
El Almendral,
elle existe vraiment.
Ah, il existe?
Si, si. C'est Almeria. J'étais allée à Almeria parce que j'avais mis la main sur la carte géographique. Et mon doigt s'était posé sur Almeria. Alors j'ai dit à Carlo, allons en Almeria. Et en Almeria, j'ai trouvé un conducteur de taxi, ça s'appelle comme
oui,
ça.
Un chauffeur.
Un autiste.
Oui.
Chauffeur. Qui était très intelligent. Je lui ai dit, je cherche un village comme ça. Je l'avais déjà écrit. Mais je n'avais pas vu pas de village espagnol. Alors il a deviné et m'a porté là. Eh oui, m'a porté à ce village très petit, très misérable et complètement vide parce que ils étaient des pauvres gens. Alors tous étaient émigrés pour travail.
Et il y avait la figurine là avec le talisman.
Ah, ça, dans l'église, vous dites?
Non, sur la porte
oui.
des maisons.
Ah oui, cette figurine, oui. C'est la vraie figurine.
Elle existe vraiment?
Elle existe, en Andalousie, c'est très, très fameuse. Je ne sais pas...
La signification.
La signification, mais
On dirait un homme qui saute à la corde.
Je ne sais pas, mais elle existe, elle est très importante là. Et je l'ai vue dans un café, une osteria.
Oui, oui, un bistrot.
Un bistrot. De là, il y avait cette petite figure sur le mur.
Oui.
C'est vrai. Mais à Rachel, c'est pas vrai.
Mais est-ce que l'Espagne, c'est pas aussi des liens avec la Sicile, je veux dire?
Ah
est-ce
oui, qu'il y a pas aussi je pense liens... que mon homme est sicilien. Parce qu'un ami à moi, Carlo, a vu, est espagnol.
Oui.
Il a vu en Espagne une bibliothèque qui s'appelle Morante. Alors.
Sûrement, oui.
Il y a des.
Des descendants, oui, des ascendants.
Mais j'avais. Ben, ça, c'est une question qui n'intéresse pas là.
Oui.
La presse. Dans ma vie, il y a deux pères. Tous les deux Siciliens.
Tous les deux Siciliens?
Oui. Mais je préfère ne pas en parler.
Les femmes, vous les considérez de deux façons. Vous avez un grand amour de la femme qui attend l'enfant.
Un grand amour de la femme simple.
Oui, il est très analphabète.
Les féministes, par exemple, je n'aime pas beaucoup parce que je pense que la femme est une créature nécessaire à l'humanité,
ah oui.
aux hommes.
Ah oui, absolument.
Et alors, j'aime beaucoup, beaucoup les femmes comme Nunziatella, comme Araceli, mais pas tellement les dames ou les intellectuels.
Ah oui,
ça, c'est mon... C'est peut-être un péché.
C'est le côté sauvage de la femme non civilisée, non...
Non, pas
non
seulement. J'ai, par exemple, une créature près de moi qui s'appelle Lucia.
Oui, très belle.
Très belle.
Elle est très belle.
Et ça, je l'adore.
Ah oui.
Elle est vraiment un ange.
Ah oui.
Elle est de... près de Naples.
Ah bon?
Oui, Ravello.
Ah oui, bah c'est beau.
De Ravello, c'est très
étonnant,
beau. Que... Mais elle est... Elle a toujours travaillé, alors je la vois si petite et qu'elle travaille toujours et je l'aime beaucoup.
Elle ressemble aux voiles, vous savez, ces voiles noires qu'on met sur les citrons, sur les citronniers à Ravel en bas, sur la côte almafitaine.
Je connais Ravel un peu, mais très peu, parce que j'allais toujours, j'aimais beaucoup la mer. La mer, mare.
Oui.
Je l'aime très bien. Beaucoup, beaucoup. Et alors, maintenant, je ne peux pas aller à la mer parce que j'aime me détendre au soleil.
Mais vous avez vécu à Procida. Vous avez
ah, Procida, je la connais très bien, oui.
Oui, moi aussi, j'étais la Coricella.
Oui,
oui.
J'étais là aussi d'hiver.
Oui. C'est beau, c'est beau.
C'est beau, c'est beau et c'est un peu...
Sauvage.
C'est pas tellement touriste,
non. Pas du tout.
Les îles de notre archipel, là-bas, sur la mer napolitaine, sont toutes belles. Leur sol est en grande partie d'origine volcanique, et plus particulièrement dans le voisinage des anciens cratères. Il y pousse des milliers de fleurs spontanées, dont je n'ai jamais retrouvé les pareilles sur le continent. Au printemps, les collines se couvrent de genêts. Lorsqu'on est en mer au mois de juin, on distingue leur odeur sauvage et caressante. Aussitôt que l'on approche de l'un de nos ports. Au flanc de ces collines, vers la campagne, mon île a des petits chemins solitaires, enfermés entre de vieux murs, par-delà lesquels s'étendent des vergers et des vignes qui ont l'air de jardins impériaux. Elle a plusieurs plages au sable clair et fin, et d'autres rivages, plus petits recouverts de galets et de coquillages, et qui se dissimulent parmi de grandes falaises. Dans ces rochers escarpés qui surplombent l'eau, les mouettes font leur nid, les mouettes et les tourterelles sauvages, dont surtout le matin de bonne heure, on entend la voix tantôt plaintive et tantôt joyeuse. Là, les jours de calme, la mer est tendre et fraîche, et elle vient se poser sur la rive, telle une rosée. Ah, ce n'est ni une mouette ni un dauphin que je voudrais être, je me contenterai d'être un scorpène, lequel est bien le plus laid des poissons de mer, pourvu qu'il me soit permis de me retrouver là-bas et de jouer dans cette eau.
a fait un film quand j'étais jeune sur l'île d'Arturo.
C'est un bon film ou...
Bien, assez bon, mais c'est fait par un homme du Nord. Et alors, il a pris pour la Nunziatella une très jolie femme américaine. Ça, alors, c'était impossible. Et pour seulement le père, qui était français, là, il était bien. C'était un acteur français très beau, mais pas très jeune. Oui, jeune, mais pas un enfant. Et le garçon aussi, c'était un jeune... Un garçon trop riche pour être Arturo. Mais le film était pas mal.
Je l'ai pas vu.
Eh bien, non, ça ne ressemble pas... C'était très fidèle, mais ne ressemble pas beaucoup assez au livre. Maintenant, on va faire un film de la storia.
Ah, c'est bien.
Si.
C'est bien. Vous n'êtes pas contente, non, qu'on fasse un film, qu'on tire des films de vos livres?
Non, je ne voulais pas avant, oui. Jamais. Seulement pour l'île d'Arturo, j'ai accepté... Parce que je voulais aider un merveilleux garçon que je connaissais et qui s'est suicidé. Et alors, il voulait l'aider, alors j'ai accepté. Mais je ne voulais pas parce que je pense que le cinéma, c'est une autre chose.
C'est autre chose.
Et alors, je laisse. J'aime ce directeur qui le fait. Il est très. Il est un homme que j'apprécie
oui, que vous appréciez.
Beaucoup, comme Comencini.
Ah oui.
Et qui aime beaucoup les enfants.
Oui, beaucoup, oui.
Il est venu me visiter. Il va faire la storia. Je lui donne
vous avez le script?
Pleine liberté. Parce que, mais je ne veux pas intervenir parce que je ne suis personne de cinéma.
Et puis il faut faire autre chose maintenant.
Certainement. Oui. Je comprends qu'il fera autre chose, mais...
Non, mais vous, je dis, un écrivain, il ne peut pas rester sur les choses passées, il faut continuer, c'est ça. Et si vous deviez encore intervenir sur la story, vous perdriez
l'énergie. Non, je ne peux pas. Non, parce que mes personnages sont mes amis. Je pense à eux comme...
Oui, on le sent.
Comme alors, je ne peux pas voir au cinéma des autres visages, des autres. Vous comprenez, c'est difficile.
William, le père d'Arthur, William.
Oui.
Il dit une phrase terrible. Il dit les femmes font tout pour que vous ne puissiez jamais oublier l'humiliation d'avoir été conçue par une femme.
Mais il est un homme un peu spécial.
Oui. Alors, est-ce que c'est, justement, je vais vous poser la question, est-ce que c'est parce que c'est un homosexuel qui dit ça?
Bien, il est homosexuel, mais il n'est pas seulement homosexuel.
Les deux.
Il est les deux, mais plus il préfère les garçons.
Il est plus homosexuel, oui.
Et certainement, il prétend ne pas aimer sa mère, mais Nunziatella, pour lui, c'est une petite mère. J'adore les mères, les vraies mères. Et j'aurais voulu avoir un fils, mais ça n'a pas été possible parce que. Avant, il y avait la guerre. Après, j'ai eu une maladie qui m'a...
Qui vous a empêché de n'avoir...
Oui.
Maintenant, chaque jour, elle m'accompagnait à l'école et venait me chercher à la sortie. Puis, avec l'été et la fermeture des classes, elle parut s'attacher à moi comme si elle me revoyait plus petit et m'avait tout à fait pardonné mes lunettes, ma laideur. Elle me gardait toujours près d'elle et recherchait avec anxiété ma compagnie. Par crainte, eût-on dit, que je me perdisse ou fusse kidnappée. Elle m'emmenait avec elle en promenade au café. Et je me souviens qu'à la plus petite occasion, franchement comique ou simplement drôle, offerte par la rue, elle éclatait de rire avec une telle irrésistible gaieté que les passants se retournaient et que certains, par contagion, riaient eux aussi. À cette époque, elle cédait facilement au rire et parfois, contre son habitude, même aux larmes. Un jour, elle pleura à la vue d'un lapin écorché suspendu à la devanture d'un boucher, car l'animal semblait encore vivant dans sa mince fourrure blanche. À certaines heures, elle avait l'air accablée par sa propre vivacité physique. Et dans la maison, nous nous poursuivions, nous jouions ensemble à l'égal de deux chiots. On aurait pu alors déceler dans son regard resplendissant, juste au centre de sa pupille, un point de scintillement presque électrique. Mais à l'improviste, sa vivacité s'éteignait, l'abandonnant à une somnolence agacée qui la faisait bâiller sans trêve. Elle me disait d'un ton dégoûté de la laisser seule.
Souvent, elle m'étreignait et me couvrait de baisers, me câlinant de son langage divin, matiné d'italien et d'espagnol, et qu'on n'entendait plus entre nous depuis le temps de Totetaco. Jusqu'à l'instant où soudain elle m'écartait d'elle, comme à la suite d'un mauvais coup reçu de l'intérieur ou d'une méchante offense. Mon inguérissable amour pour elle subissait à présent un charme nouveau et difficile. Il m'arrivait de me trouver devant elle sans presque la reconnaître, et de la fixer d'un œil stupide et incertain, mais toujours subjuguée par ses transformations. Tantôt elle se dédoublait en son frère Manuel, tantôt elle redevenait pour moi la première Araceli de Totetaco, et à d'autres moments elle se faisait étrangère à moi, prenant une forme inconnue, sans baiser ni caresse, oublieuse et ignorante de tout, promise à quelque violation aveugle du hasard et minée par une lèpre de la nature. À ces moments-là, si je la considère aujourd'hui à une telle distance, elle ressemblait à certains marbres merveilleux remontés des fonds marins vers quelque littoral où ils abordent les membres mutilés et semés de détritus, coquillages et flores aquatiques. Une fatalité adventice les rejeta à terre dans un filet, les exposant à des regards idiots qui ne savent pas lire les alphabets étrangers de leur matière. Araceli, ainsi te regardais-je alors, moi le muchachito analphabète, et ainsi je te regarde encore aujourd'hui, moi le vieil analphabète.
Et ici, je peux voir les enfants très petits, parce qu'il y a, le dernier étage, il y a la naissance des enfants.
Ah, clinique, maternité, alors.
La maternité, si. Alors, je vois, quelquefois, je vais les visiter, et je les aime beaucoup. Et maintenant, ils naissent déjà très beaux, parce qu'on fait, hélas, on fait des...
Césarienne, non?
Si. Une espèce de césarienne. Alors, les enfants naissent déjà beaux, lisses, avec les beaux yeux. Et je les aime beaucoup aussi. Et les mères aussi, mais les mères, les vraies mères. Les mères comme Nunziatella, comme...
C'est mère napolitaine.
Napolitaine, oui. Et aussi sicilien.
Sicilienne.
Un cher ami à moi, qui est mon agent littéraire,
oui.
Il a perdu ses parents. Il s'appelle Dennis. Il avait elle est morte, une mère sicilienne. J'aime le sud, je dois dire la vérité.
Dès lors, elle n'avait plus le choix. Sous les accès rageurs de sa maladie, elle se jetait dans les bras de n'importe quel homme, n'ayant égard ni à sa classe sociale, ni à ses manières, ni à sa figure, mais seulement à son sexe. La seule condition qu'elle ne transgressait pas malgré tout, c'était que l'homme fût un inconnu de passage, étranger à notre immeuble et à notre cercle de connaissances. Et certes, c'est aussi pour cela qu'elle se gardait plus que jamais de nos relations et de nos voisins, et des réunions familiales, et des lieux de vacances institués, s'enfilant à l'aventure dans les rues, telle une pauvre prostituée clandestine. Et moi, je me serrais contre elle, comme un petit veau contre sa mère, pour lui toujours odorante de son lait divin, qui alimentait depuis toujours l'éclat de ses grands halos concentriques où tout sentiment présent se dissipait, et où chacun de ses actes et mouvements, même ses cris obscènes, trouvait pour moi une destination sacrée. Mais à cette heure, ses chères mamelles s'étaient asséchées, et de sournoises mandibules travaillaient avec férocité dans son ventre obscur. Je me demande si dans ces crises, et avant, et après, des propos fussent-ils rudimentaires s'échangeaient entre elle-même et son propre corps. Mais la question est vide de sens. Notre corps est en effet étranger à nous-mêmes, autant que les amas d'étoiles ou les fonds volcaniques. Aucun dialogue possible, aucun alphabet commun. Nous ne pouvons pas nous couler dans sa fabrique ténébreuse. Et en de certaines phases cruciales, il nous lie à lui dans le même rapport qu'il y a un forçat à la roue de son supplice. Je me souviens d'avoir, je ne sais quand, surpris Araceli affaissée, en silence, sur un petit banc de l'entrée, les yeux agrandis, qui demandait, et demandait à moi aussi, là, devant elle, Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce donc tout cela qui m'arrive? Dans son regard, sous la lumière opaque, le noir foncé des iris déteignés sur le blanc de la sclérotique, s'estompant en une pauvre couleur d'innocence, gris bleuté, qui rappelait les plumules des pigeons. Son mal obsédant devait d'autant plus la déchirer qu'il était inavouable, à tous inavouable, et pire qu'à tous les autres, à mon père, son unique ami. Un soir, je l'entendis sangloter désespérément dans la chambre matrimoniale où elle se trouvait enfermée avec lui. « Bats-moi !» lui criait-elle. « Piétine-moi ! Brise-moi les os ! Tue-moi !» Je ne distinguais pas les humbles réponses de mon père, plutôt semblables à des caresses qu'à des paroles. Et plus elle s'acharnait dans sa prétention désespérée, plus sa voix lui devenait tendre, anxieuse et caressante. « Matame, avec ta manicita dolce, tu es beau comme el Redentor. Moi, je suis indigne, fea. Je suis maudite. Piétine-moi sous ta suela. Matame, matame. Mais que dis-tu, mon amour ?»
Les personnages sont des déshérités, en quelque sorte, des déchus. Et alors, les hommes sont souvent des ivrognes. Des ivrognes, c'est-à-dire des hommes qui boivent.
Parce que je dois confesser que j'étais un peu ivrogne quand j'étais... Moi, quand, seulement quand j'étais très, très... molto giovane. E poi ero molto povera, allora bevevo delle porcherie, come si dice in italiano. E mentre non ce ne puoi pas boire pas du tout, parce que je me suis, comment si dice, avvelenata. Intoxiqué. E mon estomac ne supporte pas les alcools maintenant. Aussi en Amérique, je buvais beaucoup.
Mais vous avez vécu en Amérique? Vous avez vécu beaucoup?
Non. J'étais là trois fois. Une fois, pendant deux mois, à seulement New York, je connais. Et le sud, le Mexique.
Ah oui. Et vous aimez le Mexique?
Oh oui.
Ah, ça se voit.
Surtout, j'aime beaucoup le nom.
Cuernavaca.
Une place du Mexique qui s'appelle. Où le Maya était. Comment ça s'appelle ça? J'étais là, j'étais parfaitement heureuse pendant trois jours. C'est le seul bonheur que j'ai eu de ma vie. C'était le pays des Mayas. Et alors, vous trouvez facilement.
Oui,
et c'était merveilleux. J'ai vécu
trois
là.
Jours de bonheur.
Trois jours, dans les cabanes de ces paysans.
Ah bon.
Après, je me souviens le nom.
Et vous êtes toujours d'accord avec la distinction que vous faisiez entre Achille, Don Quichotte, Hamlet, quand vous, disiez...
Ah bien, ça c'était quand j'étais ragazza, oui, j'écrivais. Eh bien, oui, il y a des autres... Je pensais que les modèles de tout personnage se réfèrent
soit Achille, l'homme d'action.
Achille qui vit la vie naturelle.
C'est
la vie. Don Quichotte qui est le rêve.
Le rêve,
et Hamlet qui est le désespoir, la refus. Et mon personnage de Wilhelm Gerasche,
oui.
C'est un peu le trois. Je dois parler encore?
Non, je ne sais pas. Comme vous
c'est
voulez,
assez, hein. Je pense, pour ma voix.
Qu'est-ce que...
Monde dessous.
Ancora
mezzogiorno.
Je dois monter, mais si vous voulez, vous pouvez monter aussi.
Je peux monter.
Sì, allora andiamo su. Clarissa d'Arama
Martella. Ecco già fa la tienda. A mio personaggio.
Zita Clarissa d'Arama Martella.
Haute magnifique. M'accueillons dans vos royales demeures. Vous feuilletez gracieusement pour moi vos livres enluminés. Je le sais, moi, femme sotte et barbare, je ne suis que votre sujette et votre servante. Mais pourtant, le ruban d'or de vos exploits et de vos arrogantes amours orne mon front servile, ô sultans indolents. Parmi vous, fleurs extraordinaires et occultes, Je ne suis qu'une abeille ouvrière. Mais sur mes éphémères élytres, si vague soit-elle, il reste une trace de votre céleste pollen. Et votre miel est mien tout entier.
Al vedermi che per te mi consumo d'amore, tutti mi dicono: ah, pazza mangiata dalle streghe, rosa dalle folle, soldato di imprese disperate, marinaio senza vela né remi, dove t'avventuri? In quali deserti di sabbia, dietro morgane e fuochi fatue e larve consolatrici, tu vuoi spegnere la tua sete nella solitaria morte?
Vous avez certains vers de Il mondo salvato dai ragazzini, le monde sauvé par les gamins, qui indiquent bien. J'en ai tiré quelques-uns, extrait quelques-uns de ce livre. Elle dit: Memoria, memoria, casa di pena. Mémoire, mémoire, maison d'arrêt. Puis elle se dit elle-même: tu es tout ici et cesse d'appeler des amants morts, des mères mortes. Leur ultime demeure, seule demeure en ta mémoire. Vous voyez, pour moi, Elsa Morante, c'est un Proust épique. C'est-à-dire que c'est un écrivain à la hauteur de Proust, mais qui n'est pas Proust, qui est Elsa Morante, mais qui en plus a une dimension de quête du Graal, une dimension féodale, une dimension violente, une dimension de sang, une dimension de menstru qui n'existe pas chez Proust. Et cette memoria, memoria, casa di pena, mémoire, mémoire, maison d'arrêt, naturellement vient, ce vers vient directement de son enfance, parce que Elsa Morante a eu un père qui dirigeait un riformatorio en italien, c'est-à-dire une maison de correction. Sa mère était institutrice. Et cette enfance, cette première enfance, toute première enfance, passée à côté d'enfants enfermés, l'a faite à jamais une rebelle. Rebelle à tout enfermement, rebelle à tout ce qui est hypocrisie dans la société, rebelle au monde adulte qui est un monde hypocrite par nécessité, mais rejeté par Elsa Morante. Et cette rébellion, on la trouve dans tous ses romans. L'enfance, pour elle, est le lieu, le moment de la rébellion au mensonge.
C'est aussi à partir du moment où les femmes deviennent beaucoup plus civilisées et corrompues par une certaine forme de civilisation. Ça se voit très bien par Rachelli, qu'elles renoncent en quelque sorte à leur existence de
oui,
femme.
Enfin. C'est ça. Vous voyez, chez Elsa Morante et dans Rachelli et dans ses autres romans, tant l'enfance et l'enfant a d'importance que toute la psychologie des personnages sont c'est, est faite d'une espèce, d'une sorte d'idéalisation de l'enfance. Et dans tous ses romans, comme dans Araceli, il y a une prédilection d'Elsa Morant et pour le personnage de l'homme-enfant et du raté, donc, comme Manuel. Manuel, et qui reste attaché à sa mère, à cet amour dévorant, cet amour que lui a porté sa mère et dont il n'arrive pas à se défaire. Et Manuel est un raté, mais il veut savoir pourquoi, et il part dans l'espace et le temps à la recherche de sa mère.
Il y a cette sympathie de la Morant est permanente pour les exclus, les ratés, les mis à part, les bannis, les rejetés,
oui,
les sans mêlés.
Oui, la rapproche de Dostoïevski de l'idiot, du Don Quichotte aussi.
Victor Bianciotti, est-ce qu'on peut parler de la place de la Morante dans la littérature européenne?
Oui, je crois qu'on peut parler de la place de Morante dans la littérature, je dirais même dans les romans du XXe siècle. Elsa Morante a dit une fois que le véritable écrivain s'intéresse à tout sauf à la littérature. Alors déjà, cette déclaration de principe qui est une sorte de fin de non-recevoir, et qui est toute son esthétique, va à l'encontre de toute la théorie du siècle, c'est-à-dire qu'est un siècle, nous vivons un siècle théoricien. On fait des théories dans tous les domaines, c'est-à-dire que le roman fait de la théorie, la musique a fait de la théorie, si on pense que toute l'école de Vienne qui allait transformer la musique du XXe siècle, ou du XIXe siècle finissante, commence pratiquement par des écrits théoriques, où dès qu'il compose, que les œuvres n'ont pas de succès, les compositeurs eux-mêmes, comme Schoenberg, écrivent pour démontrer des bien fondés de leur musique. En peinture, n'en parlons pas, et surtout en littérature depuis les années 20 notamment. Alors Elsa Morant vient avec d'abord la théorie, pas la théorie, vient avec les désirs, l'ambition folle dont elle se moquera elle-même après. Dans les années 40, elle écrit son premier grand roman après avoir écrit des contes surtout pour enfants, avec Mensonges et Sortilèges. Et il dit qu'elle écrit ce roman parce qu'elle a senti que les gens étaient incapables d'écrire des romans comme au XIXe siècle et qu'elle veut écrire un roman comme au XIXe siècle avec ses bourgeois, ses nobles, ses pauvres, ses orphelines, ses putains au grand cœur, etc., etc. Faire une sorte de saga. Écrire les derniers romans de la littérature et les premiers et les derniers d'Elsa Morante.
Et vous pensez qu'elle a réussi son entreprise?
Je crois qu'elle a réussi admirablement son entreprise, mais à ceci près qu'elle prend une telle distance que c'est un roman du XIXe siècle qui n'aurait pu être écrit qu'au XXe. Le Mensonge et Sortilège est un roman qui veut ressusciter le roman du XIXe siècle. Je pense qu'il est aussi beau, aussi fort, aussi important que « Le haut dur le vent » d'Emily Bronte. Mais évidemment, c'est un roman du XXe siècle.
Qui a eu le prix Viareggio, hein?
Il a eu le prix Viareggio, oui. En 1948.
Oui. Et par rapport à la littérature italienne, alors, comment vous placez-vous, Elsa Morante?
Je ne sais pas. La littérature italienne, je veux dire que la littérature italienne du XXe siècle, les Italiens sont passés maîtres pour, dans le mépris de leurs propres écrivains.
Mais la Morante, quand même, a fait l'événement avec la Storia. C'est 800 000 exemplaires qu'elle a vendus. Et...
Oui, elle a fait l'événement, l'événement de, public, c'est-à-dire du public. Elle a eu un grand succès du public. D'abord, elle a exigé de son éditeur que la première édition fût une édition de poche. Et qu'on la vendait à 2000 livres. Donc, déjà, c'était un lancement absolument extraordinaire et à la portée de tout le monde. En plus, elle a voulu faire un roman très populaire. Elle a renoncé, par exemple, à toutes les préciosités. Je dis préciosités dans un sens pas péjoratif du tout. Les préciosités de style, les archaïsmes, toute une façon très, très distanciée d'employer le langage comme elle l'avait utilisé aussi bien dans Mensonges et sortilèges que dans L'île d'Arturo en 57, publié en 57. C'est-à-dire qu'elle a voulu être beaucoup plus populaire. Elle a fait l'événement, mais même son intime ami Pasolini, dont la critique de la Storia figure dans un livre qui vient de sortir aux éditions Rivage, qui s'appelle Description de description. Il fait l'éloge de certaines parties. Il ne fait pas l'éloge de la totalité du livre. C'est-à-dire que la critique n'a pas été très favorable. Et vous savez, la Storia, c'est un livre dont j'ai senti, ça arrive parfois quand on travaille dans l'édition, ça arrive de temps en temps, j'ai senti que ça pouvait faire un succès, que ça pouvait lancer La Morante, dont il y avait déjà 3 livres publiés en France. Et je me suis employé, je crois que j'étais enthousiaste, je crois que j'ai communiqué l'enthousiasme comme on fait dans les maisons d'édition aux représentants, aux directeurs commerciaux. On a fait un lancement et c'est le seul pays étranger où la Storia a marché vraiment. C'est-à-dire que la Storia n'a pas marché ailleurs, vraiment, ni aux États-Unis, ni en Allemagne, ni en Angleterre.
Alors, est-ce qu'on peut dire, donc, puisque vous êtes à l'origine quand même de ce mouvement en France en faveur de La Morante, est-ce qu'on peut dire que c'est un écrivain populaire? Vous avez employé le terme d'écrivain populaire.
Non, je crois qu'elle veut l'être.
Elle veut l'être.
Elle veut l'être, elle a voulu l'être. Je veux dire que si on pense à ce qui... Et ce n'est pas une femme qui a des idéologies, c'est une anarchiste. Mais si on pense à certaines idées, je ne les partage pas du tout. C'est-à-dire qu'elle a voulu être populaire. Alors, on n'est pas populaire par volonté, n'est-ce pas? Elle s'est rattrapée avec Araceli, elle est revenue à sa véritable manière. Et puis, elle a...
Quelle est sa véritable manière, selon vous, alors?
À sa véritable manière, c'est vraiment cette sorte d'écriture un peu souterraine, ou morose, où elle semble vraiment écrire entre la rêve et le sommeil, entre la veille et le sommeil, c'est-à-dire dans une sorte de rêve un peu souterraine. Ce sont des paragraphes longs, c'est une sorte de très grande lenteur. Elle commence par décrire encore, elle commence par décrire quelque chose de très banal, elle commence par décrire une sensation quelconque. C'est le style de la spirale, c'est-à-dire c'est une spirale comme une fumée très très lente et très dense. Et ça s'ouvre, et toujours elle aboutit à une sorte de réflexion métaphysique. Mais de métaphysique, c'est un mot qui peut faire peur, non? Parce que ça fait appel à l'essai, à la théorie. Non, je veux dire métaphysique, c'est-à-dire qu'à quelque chose de très général, à une de ces vérités, de ces corollaires qui peuvent être partagés par tout le monde.
Oui, métaphysique, mais pas idéologique. Je crois que c'est
important
de souligner.
Non, idéologique, non.
Que...
Quand je parle d'idéologie, il y a une idéologie, par exemple, qui vient... Parce que c'est un grand écrivain romantique, pour moi. Alors, les romantiques, surtout les romantiques allemands, et même Baudelaire, ont inventé ou réinventé les mythes de l'enfance. C'est-à-dire l'enfance comme un paradis, l'enfant comme le seul être pur, l'enfant comme... comme les miracles, enfin, alors que moi je trouve que l'enfant est quelqu'un en puissance très dangereux, qui nous tuerait tous, qui nous détruirait tous, qui détruirait tous. Mais oui, il n'y a pas plus cruel, plus égoïste qu'un enfant. Je veux dire, si nous étions en proie aux enfants, la civilisation serait détruite immédiatement.
Le monde ne serait pas sauvé par les gamins.
Oh non, voyons. Je veux dire que c'est ça, mais je veux dire, ce n'est pas important pour un écrivain que sa foi soit une erreur fondamentale ou un leurre. Je veux dire, l'important, c'est que cette foi en quelque chose excite son imagination. Et voilà.
Vous dites que c'est une écriture romantique, que Elsa Morante est une romantique. Mais il n'y a pas cette propulsion du moi, cette mise en avant du moi-je romantique.
Ah oui, je crois que c'est un écrivain très terriblement narcissique. Je n'ai rien contre le narcissisme. Je crois que sans narcissisme, on ne peut pas vivre. On ne pourrait pas supporter l'existence. Mais je crois qu'il est très, très, très narcissique. Très narcissique, en même temps, il y a une très grande dose de masochisme dans Annelle. Je ne sais pas, Annelle, je dis Annelle parce qu'elle avoue elle-même qu'elle est dans tous ses personnages ou dans ses personnages et dans ses livres. Mais romantique parce que aussi elle est un écrivain qui raconte des choses réelles où le fantastique ne fait jamais irruption, mais il y a déjà toujours un côté fabuleux. Il y a la fable. C'est quelqu'un qui ne croit pas du tout à l'histoire et croit à la légende. Qu'est-ce que c'est que la légende? La légende n'est que la forme améliorée de l'histoire. C'est-à-dire l'histoire est pleine de répétitions comme la vie. L'histoire est un très mauvais roman, tandis que la légende est déjà l'épure de l'histoire. Et ce qu'on raconte, c'est le résumé de l'histoire. C'est l'histoire qui a laissé tomber toutes les répétitions, les pléonasmes, les redondances, et qui devient d'une certaine manière exemplaire. Mais quand je dis romantique, c'est parce qu'elle a un goût de la légende et du fabuleux, de rendre exemplaire, légendaire, la chose qu'elle raconte, le personnage terre-à-terre, très réaliste, sont ses protagonistes.
Mais est-ce que vous croyez que c'est parce que, comme l'a dit Moravia, qu'elle a cette volonté de ne pas voir le réel, qu'elle ne veut pas que...
Bon, une fois, elle avait dit qu'il y avait trois sortes d'héros romanesques. Non, oui. Achille, qui accepte la réalité tranquillement et s'en accommode. Hamlet, qui la voit, ne la supporte pas, ne l'accepte pas et ne trouve pas de solution. Et puis, le Quichotte, qui est son héros préféré, avec qui elle s'identifie, et qui ne supporte pas la réalité, mais la transfigure par une sorte de folie, ou si l'on veut, d'utopie. Et je crois qu'elle appartient à cette race, c'est-à-dire à ce genre de personnes ou d'écrivains qui veulent absolument transfigurer la réalité pour la rendre supportable. Il y a deux scènes, ne serait-ce que deux scènes dans Araceli que je préfère peut-être à tout. C'est la scène où l'enfant va avec sa mère chez l'ophtalmologiste et l'ophtalmologiste lui met des lunettes et l'enfant se rend compte que sa mère le voit laid. Et alors c'est atroce pour un enfant que sa mère voit en lui la laideur. Et puis il y a une autre scène magistrale qui se passe sur une plage. Quand l'enfant voit sa mère qui se promène, elle la voit de dos, se promène en maillot de bain, il voit que son corps s'est transformé, que les reins, qu'il y a comme un creux à la hauteur de la taille, un sillon. Et puis il voit en même temps un homme qui est sur la plage et qui la regarde. Et alors il voit ce triangle. Sa mère qui s'éloigne, ce corps qui pour lui s'est transformé, qu'il n'avait pas vu nu depuis longtemps, ou presque nu, et puis l'homme qui la regarde, c'est-à-dire il surprend le désir d'un homme pour sa femme. Et je trouve que ça, ce sont des scènes extraordinaires. C'est comme quand l'enfant l'accompagne sa mère, cette petite espagnole qui marchait très dévotement, les yeux par terre, sur les chaussures pour ne pas regarder les hommes, et comment au fur et à mesure que le temps passe, un jour il se rend compte que non seulement elle est sensible au regard des hommes, mais qu'elle le regarde à son tour. Et alors c'est ça, ce sont des découvertes très minimes qu'elle décrit admirablement. Donc là, parmi les grands moments qu'a pu écrire Morant, il y a trois qui sont dans Arachel.
Anecdote à vous raconter, c'est l'anecdote est la suivante, pour faire voir la force d'Elsa Morante et sa force, la force qu'elle porte dans ses yeux, qu'elle porte en elle, dans sa personne ramassée vers l'authenticité. Elle fuyait les persécutions nazies avec Moravia en 43. Elle avait dû quitter Rome. Elle a accompagné Moravia parce que c'était Moravia connue qui était visée par les persécutions antisémites. Et elle a voulu accompagner Moravia. Et ils se sont trouvés tous les deux en Ciociaria, c'est-à-dire dans des monts qui sont entre le Monte Cassino, où allaient avoir lieu les dernières batailles, et Rome. Et ils étaient réfugiés tous les deux chez des paysans, dans une étable. Au milieu de la nuit, la porte s'ouvre brutalement et une patrouille allemande entre. Éclairs, torches, etc., fusils pointés. Elsa Morante, en pyjama, à moitié habillée, enfin, se dresse sur son séant et commence à invectiver la patrouille allemande. Elle dit « Mais che modi sono questi ? Vous pourriez au moins avoir la politesse de frapper avant d'entrer. » Et les Allemands ont reculé. Ils ont reculé. Et ils se sont enfuis. Immédiatement, les montagnards, les paysans qui étaient dans ce village, sont venus voir Elsa Morante et lui ont dit « Mais qu'est-ce que vous leur avez dit pour qu'ils s'en aillent comme ça ?» Alors elle dit « Rien, je leur ai rien dit du tout, je leur ai dit simplement que dans la ville, il faut être poli. » Sa vie a été ainsi, paradis, enfer, faire paradis, comme d'ailleurs ce que supportent ces personnages. Son univers, c'est l'univers des prisonniers de l'amour. Comme il est dit dans la Dio autobiographique, aucun mirage ne peut rencontrer un autre mirage, il n'est que solitude après le vol des corps. C'est tout Elsa Morante là.
C'était un portrait d'Elsa Morante avec Jean-Noël Schifano, Hector Bianciotti, Irène Omelianenko, Francesca Piolo, Pierre Monteil, Bruno Gagnère, Tristan Piolo et Jean Couturier. L'entretien d'Elsa Morante est paru dans le journal Le Monde, daté du 23 novembre.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 22 novembre 1984.